Nous allons lire plusieurs passages. Tout d'abord dans le premier livre de Samuel, au chapitre 7, verset 15. Et Samuel jugea Israël tous les jours de sa vie. Et il allait d'année en année, il faisait le tour à Bethel et à Gilgal et à Mitzpah. Et jugeait Israël dans tous ces lieux-là. Il s'en retournait à Rama, car là était sa maison, et là il jugeait Israël, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Ensuite, dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 22, et David dit, c'est ici la maison de l'Éternel Dieu, et c'est ici l'autel pour l'Holocauste d'Israël. Dans la deuxième épître à Timothée, tout d'abord au chapitre 2, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Verset 8, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, de la semence de David, selon mon évangile, dans lequel j'endure des souffrances jusqu'à être lié de chaînes comme un malfaiteur. Et toutefois, la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi j'endure tout pour l'amour des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Au chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Je t'en adjure devant Dieu et le Christ Jésus qui va juger vivants et morts, et par son apparition et par son règne, prêche la parole. Insiste en temps et hors de temps, convainc, reprend, exhorte avec toute longanimité et doctrine. Car il y aura un temps où ils ne supporteront pas le saint enseignement. Mais, ayant des oreilles qui leur démangent, ils s'amasseront des docteurs selon leurs propres convoitises, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, endure les souffrances, c'est l'œuvre d'un évangéliste, accomplis pleinement ton service. Car, pour moi, je sers déjà de libation. Et le temps de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, m'est réservée la couronne de justice que le Seigneur juste juge me donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition. Verset 18, le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre et me conservera pour son royaume céleste, à lui la gloire au siècle des siècles. Amen. Verset 22, le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Et tout de suite un mot sur ces deux dernières lignes que nous venons de lire. C'est une épître individuelle. Le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit. Mais au-delà de Timothée qui se trouve à Éphèse, Paul pense à l'assemblée dans laquelle Timothée se trouve, et la dernière ligne nous montre bien que Paul voit au-delà de l'individu, au-delà du croyant, et il pense à tous ces croyants d'Éphèse. Il pense à nous tous. Nous sommes tous concernés par ce message que nous ne pouvons pas lire sans être profondément impressionnés par deux choses. Et nous les avons lues. Premièrement, le côté particulièrement solennel qui commence le chapitre 4, « Je t'en adjure devant Dieu et le Christ Jésus. » Dieu et le Christ. Qui est le Christ ? Qui va juger vivants et morts. Nous pensons à Acte 17. L'homme que Dieu a prévu pour cela, pour accomplir ce jugement, et il en a démontré la vérité de ce propos en le ressuscitant d'entre les morts. Je t'en adjure devant Dieu et le Christ Jésus qui va juger vivants et morts, et par son apparition, premièrement. Et il est souvent question de cette apparition, de ce jour-là, dans cette deuxième épître, et par son règne. Cela aussi, c'est une pensée précieuse. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, de la semence de David. David, le roi guerrier, pensons à cela quand nous lisons la deuxième épître à Timothée, David, le roi guerrier, est celui qui doit régner. Si nous vivons avec lui, aussi nous régnerons avec lui. Donc, par son apparition et par son règne. Voilà quatre éléments que Paul met en valeur pour souligner son adjuration, Dieu, Christ, le jugement, l'apparition et le règne. Cinq. Alors, prêche la parole, etc. La solennité de ce début du chapitre 4, mais aussi le côté profondément touchant qui commence avec le verset 6. Il a dit d'une manière sérieuse et solennelle, mais toi, en opposition avec ceux qui ont des oreilles qui leur démangent, mais toi, sois sobre. Eh bien maintenant, verset 6, pour moi. Voilà ce cher apôtre Paul, on ne peut pas ne pas être ému quand on lit ces lignes. Il faut se remettre dans ce que cette épître nous apprend. Il était là, à Rome, comme un malfaiteur lié de chaînes, et il dit pour moi. Qu'en est-il pour moi? Eh bien pour moi. Je sers déjà de libation. Je suis déjà un avant-goût du sacrifice qui va être le mien, que le Seigneur réclame de moi. Le sacrifice que je vais faire qui va être fait de ma vie. Je sers déjà de libation. Le temps de mon départ est arrivé. Et puis, trois points. Le bon combat. La course. La foi. La couronne de justice lui est réservée. Ce sont de très douces paroles. Ce sont des paroles qui devaient toucher Timothée. C'était une des quatre raisons pour lesquelles Timothée, en lisant cette lettre, devait être très triste. Très triste, à en pleurer. Je pense qu'il a lu cette lettre, qu'il l'a relue plusieurs fois. Et si c'est notre fait aussi de lire et de relire cette lettre, nous ne pouvons qu'être tristes en pensant à ce qu'elle nous développe. Il est certain que, bien chers amis, frères et sœurs en Christ, vous voyez que c'est la deuxième épître à Timothée qui est devant nous. Mais toutefois, elle fait partie d'un vaste sujet, trop vaste peut-être, bien sûr, dont nous allons simplement donner les jalons pour mettre en relief, finalement, quelques détails seulement concernant la deuxième épître à Timothée. Quel est ce vaste sujet devant nous? Il comprend trois parties. Premièrement, notre responsabilité personnelle, individuelle, quant à Christ. Deuxièmement, notre responsabilité individuelle, personnelle, quant à l'Assemblée. Troisièmement, la deuxième épître à Timothée, mais sans vouloir entrer dans les détails de cette épître, principalement le sujet des ressources, des 10 ressources que nous pouvons trouver dans cette épître, des ressources dont nous avons besoin, dont Timothée avait besoin, dont les croyants d'alors avaient besoin. Quand nous considérons ce qui nous est dit dans cette deuxième épître à Timothée, nous pourrions peut-être être, comme Timothée, profondément triste et peut-être même découragé, et dire, mais comment aller de l'avant? Voilà qu'il est question de responsabilité quant à la maison, quant à l'assemblée. Comment faire face? Eh bien, il y a des ressources invariables, des ressources auxquelles il nous faut puiser. Mettant de côté tout ce que la sagesse humaine, le raisonnement humain pourrait nous proposer, tout ce qui monte dans notre propre cœur. Allons rapidement. Première partie de notre sujet, la responsabilité quant à Christ. C'est certainement la base. La base de ce qui est devant nous, si nous voulons considérer la deuxième épître à Timothée. Nous avons lu un passage où il est dit que Samuel a bâti là un autel. Qu'est-ce que c'est qu'un autel? Cela nous parle de Christ, de la personne de Christ, par lequel nous pouvons nous approcher de Dieu en l'invoquant et en vertu de son sacrifice. Alors, bâtir l'autel, est-ce que ça voudrait dire qu'il faut bâtir Christ? Absolument pas. Nous comprenons bien que ce n'est pas le sens moral de cette expression. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot que nous retrouvons plusieurs fois dans la parole? Eh bien, il faut considérer dans ce terme de bâtir une prise de conscience du croyant quant à Christ, quant à ce que Dieu nous offre en Christ et avec Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, Dieu nous a donné son Fils, c'est bien clair. Alors, est-ce que nous restons, une fois que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et par la voie, est-ce que nous restons passifs devant cette personne glorieuse dont nous avons rappelé quelques caractères tout à l'heure? Est-ce que nous attendons passivement devant, en fait, cet autel, en quelque mesure, ou bien est-ce que nous bâtissons l'autel? Eh bien, il a lieu de bâtir l'autel. C'est-à-dire que cela suggère une activité, et non pas une passivité. Une activité, c'est-à-dire quelque chose qui découle de notre responsabilité quant à Christ. Dieu nous offre, Dieu nous donne, Romains 8, librement, toutes choses avec lui, nous le savons bien. Eh bien, il nous faut saisir ces vérités, les saisir à pleine main, les saisir par la foi, et pour cela, il y a une activité, c'est le contraire. Le contraire de quoi? Le contraire du sommeil spirituel. Qu'est-ce que c'est que le sommeil spirituel? C'est perdre toute notion des relations qui nous unissent à Christ. Il faut bâtir l'autel. Alors là, nous allons aller à d'entrée, ce n'est qu'un quelques jalons que nous plaçons devant nous, ce passage de 1 Samuel 7, et le douzième autel que nous pouvons considérer comme bâti par des croyants pris individuellement, c'est-à-dire que nous mettons de côté les autels relatifs à la sacrificature lévitique. Autel de l'encens, autel de terre, autel d'airain, autel de l'Holocauste, nous mettons cela de côté. Nous voyons un premier autel, c'est celui que Noé a construit. Genèse chapitre 8. Il nous parle de l'intelligence, de celui qui bâtit l'autel. Il sait ce qu'il y a lieu d'offrir sur cet autel. Ensuite, quatre autels qui sont le fait d'Abraham et d'Abraham. Dans le chapitre 11 de la Genèse, il y en a deux. Le premier, c'est l'autel de l'obéissance. Effectivement, pour saisir Christ, pour bâtir l'autel, il y a lieu de se placer sur un terrain d'obéissance, d'être obéissant. Premier, autel construit, bâti par Abraham. Deuxième autel construit par Abraham, troisième de notre liste, c'est l'autel du voyageur. Un verset plus loin, un autel qu'il va retrouver d'ailleurs en remontant d'Égypte. Troisième autel d'Abraham, une fois que Lot a choisi la plaine du Jourdain, lui prend ce qui reste, et c'est l'autel d'Hébron, c'est l'autel du renoncement. Ensuite, il y a le quatrième autel bâti par Abraham, dans le chapitre 22 de la Genèse, à Morija. D'ailleurs, sauf erreur, c'est parmi ces 12 autels, la seule fois où il est dit, au lieu de l'expression un autel, il est dit l'autel, L', un article défini. C'est bien un autel tout à fait particulier, nous le comprenons que celui de Genèse 22. Comment appeler, comment dénommer, quel titre donner à cet autel de Genèse 22? C'est l'autel de l'amour. Parce que Abraham aimait Isaac, c'est clair. Mais il est clair aussi que Isaac aimait Abraham. Abraham aimait l'Éternel. Et l'Éternel aimait Abraham et Isaac. Tout cela est manifesté dans ce chapitre 22 de la Genèse. Là encore, ce n'est qu'un jalon. C'est le cinquième de notre liste, c'est le quatrième d'Abraham. Ensuite, nous avons l'autel de Beersheba. Il est bâti par Isaac. De quoi nous parle-t-il de cet autel bâti par Isaac à Beersheba? Il nous parle de... C'est le puits du serment, Beersheba. Donc, cet autel nous parle des promesses qui sont en Christ. Voilà aussi quelque chose qu'il nous faut saisir, à pleine main et par la foi, bâtir l'autel comme Isaac l'a fait, avec sa tente à côté, nous le savons bien, comme Abraham aussi dans le chapitre 11 de la Genèse, témoignage étant rendu de son caractère d'étranger ici-bas. Donc, à Beersheba, il saisit ce qu'il y a dans un Christ ressuscité, en lui est le oui et en lui l'amen. 2 Corinthiens 1. Ensuite, il y a deux autels bâtis par Jacob. Dans le 33 de la Genèse, c'est l'autel de El Eloé Israël bâti à Sichem, qui nous évoque, il serait long d'entrer dans les explications concernant cela, mais nous allons rapidement, Sichem nous évoque la portion, Genèse 48, c'est en figure déjà quelque chose que nous avons dans Éphésiens 1, la rédemption de la possession acquise. Et c'est sûr que quand nous voulons nous approcher de Dieu par l'autel, par Christ, il nous faut saisir ce qu'est cette rédemption acquise, il nous faut saisir ce qu'est Sichem, ce qu'est cette portion qui devait revenir justement à Joseph. Et dans l'autel suivant, il y a en quelque sorte la suite normale de cette rédemption, de ce qui est saisi par la foi de ce qu'est la rédemption de la possession acquise, c'est Genèse 35, l'autel de Bethel, l'autel de la maison de Dieu. Voilà donc l'autel de Noé, l'autel de l'intelligence, l'autel d'Abraham, l'autel de l'obéissance, l'autel du voyageur, l'autel du renoncement, l'autel de l'amour, ensuite Isaac, l'autel des promesses contenues en Christ, ensuite Jacob, l'autel de la portion et de la rédemption acquise, et puis l'autel de la maison de Dieu. Alors ensuite nous avons l'autel bâti par Moïse, dans le chapitre 17 de l'Exode, c'est l'autel de l'Éternel, ma bannière, Jéhovah Nissi. Une victoire a été remportée, eh bien, cela aussi nous faut le saisir par la foi, ce qu'il y a en Christ, en tant que victoire remportée. Et puis, après cet autel bâti par Moïse, nous avons celui bâti par Josué, dans le pays de la promesse, sur la montagne d'Ebal, qui nous évoque le dernier verset du chapitre 5 de la deuxième épître aux Corinthiens, où il nous est dit que Christ a été fait péché pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. Il a été fait péché pour nous parce que Ebal, c'est la montagne de la malédiction, voire Deutéronome 27, nous connaissons bien cette liste de 12 maudits, 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 eh bien, il a subi cette malédiction, plus encore, il est devenu malédiction de Dieu pour nous, comme nous lisons dans le chapitre 3 de l'Épître aux Galates. Voilà donc à Ebal cet autel qui est bâti et qui est en quelque sorte l'autel de la justice de Dieu. Et puis, nous avons en juge 6, Jéhovah Shalom. Gédéon bâtit un autel qui évoque la paix. C'est l'éternel et la paix, c'est aussi quelque chose qu'il nous faut saisir. Et puis voilà le 12e autel, c'est celui que Samuel bâtit à Rama. Et nous avons remarqué qu'il y a 3 fois le mot « là » à Rama. Premièrement, il y a sa maison. Deuxièmement, il bâtit un autel, et troisièmement, il juge. C'est-à-dire que si dans celui de Noé, il y avait l'intelligence de celui qui s'approche, ici dans 1 Samuel 7, il y a l'intelligence que Samuel reçoit. Il reçoit de l'intelligence à Rama, là où il a bâti son autel, parce que cela lui était nécessaire pour exercer ce ministère à l'égard de ce peuple. Retenons bien cela. À l'égard de ce peuple. au milieu duquel l'Éternel avait désiré habiter, voir Exode 15, une fois la rédemption accomplie en image, et par l'agneau pascal, et par la traversée de la mer rouge. Donc, en 1 Samuel 7, Samuel bâtit cet autel là où il habite. C'est là où est sa maison. Il y a une responsabilité individuelle qui est liée à sa maison, à son foyer. Et c'est quelque chose que nous retrouvons dans la première épître à Timothée, nous le savons bien. Comment avoir un service, une charge locale dans une assemblée? Comment prendre soin de la maison de Dieu, de l'assemblée maison de Dieu, si premièrement nous n'avons pas su conduire notre propre maison? Voilà donc quelque chose qui se trouve là symboliquement, là est sa maison, là il juge Israël, mais aussi là il a bâti un autel, prenant conscience à la fois de sa responsabilité personnelle, individuelle, quant à sa maison, quant à Christ et quant au peuple. Donc c'est le 12e autel. Donc c'est, vu très rapidement, le sujet de notre responsabilité individuelle quant à Christ, ne restant pas oisif ni stérile, 2e épître de Pierre, 1er chapitre, en ce qui concerne cette connaissance de la personne du Seigneur Jésus. Voyez, il faut toujours trouver quelque chose de pratique et de concret. On vient de lire, de rappeler très rapidement des choses qui peuvent peut-être paraître trop élevées, qui peuvent paraître même abstraites. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? Ça veut dire que si nous sommes sauvés, si nous avons la conscience d'avoir un sauveur dans la personne de Christ, eh bien, il ne faut pas rester les bras croisés. En nous disant, eh bien maintenant je suis tranquille, on m'a appris que tout à l'heure ce Seigneur qui est mon sauveur va venir me chercher et que je vais être ravi à sa rencontre en l'air. Il y a lieu de bâtir l'autel. Est-ce que tous les jours, est-ce que à chaque pas, est-ce que sans cesse dans nos vies privées, nous bâtissons l'autel? Alors, rappelons-nous les caractères que nous avons évoqués, l'intelligence, l'obéissance, le renoncement, saisir ce qu'est la rédemption acquise pour bâtir l'autel de la maison de Dieu, les promesses qui sont incluses en Christ. Voilà. Voilà quelque chose de concret, voilà quelque chose que les jeunes de 12 ans, de 15 ans peuvent saisir. Est-ce que vous bâtissez l'autel dans votre vie quotidienne? Ou bien est-ce que vous laissez tranquillement votre Bible sur le coin de votre bureau, de votre étagère, en vous disant « c'est bien, j'entends tel et tel frère parler, lire des écrits, non, il n'est pas question, c'est beaucoup trop compliqué pour moi, on n'a jamais essayé. Mais enfin, a priori, c'est trop élevé pour moi, je laisse ça tranquille, et j'entends tel ou tel frère parler, c'est comme nous lisons dans Ézéchiel 33. » Oh, il faut lire ce passage parce que il s'applique bien souvent justement aux réactions de croyants qui sont sauvés mais qui ne saisissent pas leur responsabilité personnelle quant à Christ. Qu'est-ce qu'il nous dit Ézéchiel 33? Beaucoup d'entre nous le connaissent, mais verset 32, « Et voici, tu es pour eux comme un chant agréable, une belle voix et quelqu'un qui joue bien. » Ils entendent tes paroles, mais ils ne les pratiquent nullement. Bâtir l'autel. Alors, deuxièmement, notre responsabilité quant à l'Assemblée. On va dire, mais si je saisis ma responsabilité quant à Christ, pourquoi me parlez-vous de l'Assemblée? Eh bien, mais parce que, première raison, Dieu ne nous a pas sauvés, Dieu ne vous a pas sauvés pour vous laisser seuls. Ce n'est pas le propos de Dieu que de sauver les rachetés l'un après l'autre et de les laisser ainsi éparpillés, dispersés dans le monde pour qu'ils vivent leur vie de croyants isolément. Certes, il y en a beaucoup qui font ainsi. Peut-être n'ont-ils pas été éclairés, c'est très possible, mais à partir du moment où quelqu'un est éclairé, c'est-à-dire à partir du moment où la parole de Dieu est là présentée devant lui, à partir du moment où il y a un enseignement, où il y a un avertissement, alors là, notre responsabilité est en jeu. Mais voyez, chers jeunes amis, vous êtes sauvés. C'est un effet de la grâce de Dieu. Vous en êtes heureux, c'est bien. Mais ne perdez pas de vue qu'en même temps que vous êtes sauvés, par la grâce, par la foi, scellés du Saint-Esprit, vous êtes un membre du corps de Christ. Vous êtes une pierre vivante qui fait partie de l'édifice, de la maison spirituelle, telle que nous l'avons dans le chapitre 2, la première épître de Pierre, que vous le vouliez ou non, que vous le vouliez ou non, c'est ainsi. Vous n'entrez pas dans l'assemblée quand vous êtes admis à la table du Seigneur. Vous êtes admis à la communion réalisée à la table du Seigneur parce que vous faites partie de l'assemblée, parce que vous êtes un membre du corps de Christ, parce que vous êtes une pierre vivante. On ne va pas admettre quelqu'un qui n'est pas une pierre vivante, qui n'est pas sauvé. Donc, première raison, vous avez une responsabilité quant au corps, parce que vous êtes un membre du corps. Que vous le réalisiez ou non, mais on vous le dit ce soir. C'est très sérieux. Et vous savez très bien, pour assister à des réunions d'assemblée, pour savoir plus ou moins ce qui s'y passe, que vos yeux sont très ouverts. Vous êtes très clairvoyants sur le visage que nous portons, que les frères portent, que les sœurs portent. Oh, un visage qui n'est pas toujours très beau. Un visage qui est marqué par des souillures, par des rides. Vous savez très bien le voir. Vous êtes très au courant. Et les jeunes, justement, ont en général un désir de vérité, un désir de droiture. Vous avez le désir que ce qui est annoncé, ce qui est proclamé comme principe, soit vraiment mis en pratique. Et vous savez très bien dire que dans telle et telle circonstance, ce qui avait été établi comme un principe enseigné de la parole n'a pas été obéi. Oui, vous êtes clairvoyant. Mais n'oubliez pas que, pour autant que vous soyez clairvoyant, vous êtes responsable. Vous êtes responsable à l'égard du corps. Et vous êtes responsable à l'égard de vous-même. Parce que si vous êtes très clairvoyant, si vous avez les yeux ouverts sur les autres dont le visage n'est pas toujours très beau, c'est sûr. Eh bien, nous vous demandons, chers jeunes amis, d'être tout aussi clairvoyants sur votre propre état et de vous considérer d'abord à la lumière de la parole pour vous demander si, effectivement, ayant d'abord réalisé pratiquement, activement, votre responsabilité quant à Christ, ayant d'abord bâti l'autel, eh bien, vous faites face à ce qui vous est demandé comme membre du corps. La question est posée, ce n'est pas la peine d'ajouter quoi que ce soit, je crois. Voilà notre responsabilité quant à l'Assemblée bien établie par le fait que il y a une superposition entre quoi ? Nous avons lu Deux Chroniques 22. C'est ici l'autel, c'est ici la maison. Il y a une superposition, une implication, quelque chose qui est indissoluble, entre l'autel et la maison, c'est-à-dire entre Christ et l'Assemblée. On ne peut pas voir Christ séparé de l'Assemblée, ou l'Assemblée, un rassemblement de croyants, séparé de Christ. Cela n'est pas concevable. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là. Il n'est pas dit, le Seigneur Jésus ne dit pas, je vous promets que je vais venir. Il ne nous dit pas, je viendrai. Non, c'est impliqué dans le fait que deux ou trois sont assemblés à mon nom, eh bien, il est là. Dans le chapitre 20 de l'évangile de Jean, les portes sont fermées, eh bien, Jésus vient. Dans le chapitre 24 de Luc, le Seigneur Jésus se trouve au milieu. Mais quelque temps auparavant, les disciples étaient tout seuls dans cette chambre haute. Ils n'y étaient pas encore. Si quelques croyants, deux ou trois, sont assemblés en son nom, nous n'avons pas à attendre. Nous n'avons pas à attendre, comme on dit quelquefois, que le Seigneur Jésus vienne donner le garant de sa présence à ce rassemblement. En quelque sorte, ça voudrait dire que nous sommes assemblés avec de bonnes intentions, cherchant des caractères moraux les meilleurs possibles, conformes aux enseignements de la parole, et que, moyennant cela, le Seigneur Jésus va venir pour apposer le sceau de sa présence à cet ensemble. Ce n'est pas cela. Non. Nous sommes assemblés, alors le Seigneur Jésus est là. Et il y a une superposition, le mot n'est peut-être pas très correct, mais il n'y en a pas d'autres qui viennent à mon esprit en ce moment, il y a une superposition entre ces deux faits, Christ, l'assemblée, de la même manière que nous avons l'autel, la maison. La responsabilité quant à l'assemblée, là aussi nous allons aller très vite et rappeler seulement quelques jalons, d'une manière générale, sans considérer ce que nous avons dans 2 Timothée, c'est aussi intéressant de voir quelle est la responsabilité du serviteur quant à l'assemblée, mais nous disons premièrement d'une manière générale, c'était le deuxième chapitre. Hein. Le premier chapitre, c'était notre responsabilité quant à Christ, bâtir l'autel. Le deuxième chapitre, c'est la responsabilité du croyant individuellement quant à l'assemblée. 5 points que nous connaissons bien. Et il est bien clair que si nous disons 5 points, c'est pour la facilité de l'exposé, pour la clarté, mais que les uns se recouvrent par rapport aux autres. Nous comprenons bien la chose. Le premier point, c'est la responsabilité morale. C'est 1 Corinthiens 11. S'examiner soi-même, se juger soi-même, compte tenu de la sainteté de la table, de la grâce qui est là, dans ce souvenir, dans cette scène du Seigneur qui est sur la table du Seigneur. La responsabilité morale. Deuxièmement, la responsabilité d'ouvrier, c'est 1 Corinthiens 3, et cela est développé justement dans la deuxième épître à Timothée. Ne perdons pas ce mot de vue de notre esprit qu'il reste gravé, la responsabilité de l'ouvrier, c'est 1 Corinthiens 3. Deuxièmement, la responsabilité quant au don, quant au ministère. Alors nous avons plusieurs passages, en particulier nous pensons à 1 Corinthiens 12, mais il y a 1 Corinthiens 14 qui est son application, mais il y a aussi Romains 12, il y a aussi le deuxième paragraphe de 1 Pierre 4. Connaissons ces choses. Responsabilité donc quant au don. Ensuite, responsabilité quant aux charges locales, surveillants, serviteurs. C'est essentiellement la première épître à Timothée. Mais aussi dans Romains 12, nous avons quelque chose relatif au service. Voilà 4 responsabilités. Morale, l'ouvrage, les dons, les charges locales. Et puis la 5e, eh bien c'est la responsabilité quant à l'adoration. Et c'est 1 Pierre 2, des sacrifices agréables par Jésus-Christ. Alors, 3e chapitre. Nous arrivons dans notre 2e épître à Timothée. Encore une fois, allez-vous dire peut-être, chers jeunes gens, chères jeunes filles, il nous est parlé de la deuxième épître à Timothée. Mais oui, parce que ce sont des passages, des portions de la parole, comme l'évangile de Jean, comme le psaume 23 et comme d'autres, sur lesquels il nous faut toujours revenir. Et il n'y a jamais de fadeur, il n'y a jamais de manque d'intérêt à revenir sur de tels passages. Il y avait, il y a quelques années, un frère âgé, grave, qui disait « Je suis toujours heureux quand un frère se lève et qu'il lit le psaume 23. Pour la énième fois, je vais entendre quelque chose sur le psaume 23 et je suis sûr que Dieu, par son esprit, va m'accorder encore quelque chose dont j'ai besoin » par cette lecture du psaume 23. Eh bien, dans la deuxième épître à Timothée, quant à ce qui concerne la deuxième épître à Timothée, il en est de même. Il en est de même. Nous en avons besoin parce que qui d'entre nous, sans être arrivé à un âge avancé, n'a connu une tristesse comme pouvait la connaître ce cher jeune croyant. Une tristesse mêlée de nostalgie quand lui est évoquée la voix de Loïs et de Nice, celle qui lui apprenait les saintes lettres, est évoquée aussi leur visage, mais d'une manière plus profonde, la foi qui habitait en elle. Son cœur se serre, et il se serre encore d'une manière peut-être plus intime quand Paul lui rappelle ce que nous avons lu. Il est lié de chaînes comme un malfaiteur au fond d'une prison de Rome. Il est seul, tout le monde l'a abandonné. Il sert déjà de libation. Le temps de son départ est arrivé. Pensons un peu à quelqu'un que nous aimons beaucoup. Il faut toujours voir les choses d'une manière concrète. Timothée, Paul, c'est loin de nous, c'est il y a 2000 ans. Mais pensons, en ce qui nous concerne, à quelqu'un que nous aimons bien, qui est dans un pays éloigné, qui nous écrit, tu sais, pour moi c'est fini. J'ai telle maladie, j'ai telle chose qui m'est survenue. Eh bien, voilà, mon cher jeune ami, mon cher jeune neveu, mon cher jeune enfant, mon cher fils, je m'en vais. Et il est loin. On ne peut plus le voir. Bien sûr, nous savons, presse-toi de venir, mais à l'époque, ce n'était pas commun d'aller d'Éphèse à Rome. Ce n'est pas comme maintenant, on saute dans un avion et puis une demi-journée après, on est rendu. Ce n'était pas la même facilité. Et cela devait serrer le cœur de Timothée. Et puis il y avait une tristesse qui était mêlée peut-être de honte quand il considérait que cet apôtre, ce grand docteur des nations, comme il se nomme au premier chapitre, en était réduit là. Mais quelle décadence! À vue humaine, c'était un échec complet. Quoi, il lui dit que la parole court encore, qu'elle n'est pas liée, ou qu'elle court, comme nous lisons dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, et pourtant lui qui était le porteur de la parole, comme nous lisons dans Acte 14, il était là au fond d'une prison romaine, mais c'est un échec. Alors, il y avait lieu peut-être pour Timothée d'avoir honte et... Paul pressent ce sentiment, il le prévient aussi, et lui dit déjà dès le premier chapitre, « N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. » Tu sais, il ne faut pas que tu regardes au lien, il ne faut pas que tu regardes à ce que je suis devenu, il y a d'autres choses, il y a d'autres ressources. Il y avait lieu aussi d'être découragé, peut-être même. C'est le quatrième motif de tristesse de Timothée, quand il considère l'état, il est amené à considérer le tableau sombre brossé par le pinceau de l'apôtre. C'est des brèches, c'est des pans de murs abattus dans cette grande maison, et la ruine annoncée. La ruine annoncée. On peut peut-être, ça a été dit, que c'est sûr que c'est l'épître de la ruine, mais il semble plutôt qu'elle est annoncée, que nous avons une gradation entre la première épître, où il y a déjà des fissures. Dans la première épître à Timothée, il y a des fissures. Nous allons le voir quand même. Dans la deuxième, il y a des brèches. Voilà, tous ceux d'Asie se sont détournés de moi. Il y a des personnages comme Hyménée et Philette, dont la parole ronge comme une gangrène. Ils renversent la voix de quelques-uns, disant que la résurrection a déjà eu lieu. Ah. Voilà des choses qui sont navrantes dans cette grande maison où se sont introduits des vases à déshonneur. Il y a des fissures dans 1 Timothée. Oui, rapidement. Nous avons 5 fois le mot « quelques-uns » répété qui annonce que plus grave va survenir et dont rend témoignage la deuxième épître. 1 Timothée, premier chapitre, lisons rapidement au verset 5, quelques-uns se sont écartés du cœur pur, de la bonne conscience, de la voix sincère, et se sont détournés à un vain babil. 1 Timothée 1, verset 6. Ensuite, au verset 19, voilà encore que quelques-uns ont rejeté, qu'est-ce qu'ils ont rejeté? La foi, la bonne conscience, eh bien ils ont fait naufrage, quant à la foi. Un peu plus loin, au chapitre 5, verset 24, les péchés de quelques hommes sont manifestes d'avance et vont devant pour le jugement. Et puis, chapitre 6, encore deux passages. Verset 10, voilà l'amour de l'argent qui est là devant les croyants. Quelques-uns ayant ambitionné de posséder de l'argent, ils se sont égarés de la foi. Ils se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Et puis, au dernier verset, le verset 21 du chapitre 6 se termine par déjà une fissure qui est là, la cinquième. Quelques-uns faisant profession de cette connaissance, faussement ainsi nommée, se sont écartés de la foi. Il y a un sixième point, c'est une éventualité, au verset 3 du chapitre 6. Si quelqu'un enseigne autrement et ne se range pas à de saines paroles, savoir à celle de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine, etc. Remarquons que les cinq fissures sont relatives à des manquements individuels quant à la foi. Alors que l'éventualité est vraiment en rapport avec ce qui se passe dans la deuxième épître à Timothée, il s'agit d'un faux enseignement, de quelqu'un qui présente un enseignement qui n'est pas conforme à ce que nous avons reçu par la saine doctrine. Et c'est bien ce qui se passe dans la deuxième épître à Timothée. Voilà cette parole qui ronge comme une gangrène. Voilà que ceux d'Asie se sont détournés de Paul, non pas en tant qu'homme, bien sûr, mais en tant que prédicateur des nations. C'est cette doctrine que Paul annonçait qui a fait que ceux d'Asie se sont détournés de lui. Et puis, il y a pire encore, comme nous l'avons lu, au chapitre 4, quand ceux qui désirent s'amasser des docteurs selon leur propre convoitise, recherchent un faux enseignement, se détournent du saint enseignement. Donc, quatre points de tristesse et d'accablement, d'autant plus que Paul propose à Timothée une tâche qui n'est pas mince. Là aussi, des jalons, parce qu'on ne peut pas regarder cela en détail, il y a sept points de cette tâche. Il y a lieu de commettre à des hommes fidèles, capables aussi d'instruire aussi les autres, les choses que Timothée avait entendues de l'apôtre, premièrement. Deuxièmement, il fallait qu'il les remette en mémoire. Troisièmement, il fallait qu'il expose justement la parole de la vérité. Quatrièmement, toujours dans le chapitre 2, il fallait qu'il enseigne avec douceur les opposants. Cinquièmement, il fallait qu'il prêche la parole. Sixièmement, il fallait qu'il accomplisse pleinement son service. Voilà six points, nous voyons bien qu'ils sont à peu près tous en rapport avec l'enseignement, avec la doctrine de l'apôtre, avec ce qu'il avait reçu. Et le septième? Eh bien le septième, nous y avons fait allusion tout à l'heure, il n'était pas mince non plus. Empresse-toi de venir avant l'hiver. Quelle tâche! Il y a souvent dans le service quelque chose de physique de la sorte, quelque chose de concret qu'il faut accomplir, qui demande de la peine pour nos corps, qui demande qu'on prenne un bateau et que pendant des mois on vogue au péril de ce qui pouvait arriver en mer à l'époque pour aller jusqu'à Rome. Et puis le temps pressé, je ne sais pas à quelle époque cela a été écrit, mais enfin voilà que l'hiver arrivait et il est remarquable que Paul est là devant nous, devant Timothée comme un homme. C'est intéressant de voir que ce grand apôtre et docteur des nations était un homme. On pourrait reprendre l'expression de l'épître de Jacques à propos d'Élie ayant les mêmes passions que nous. C'était un homme ayant la même sensibilité. Il était sensible à la miséricorde qu'avait manifestée Onésiphore, celui qu'il avait recherché avec soin, qu'il avait consolé. Il était sensible à l'isolement. Tous m'ont abandonné. Viens vite me retrouver. Il était sensible au manque de lecture, il avait besoin des parchemins, il était sensible au froid, il avait besoin d'un manteau. Combien cher et précieux devient cet apôtre à nos cœurs quand nous considérons ces détails qui semblent tout simples, qui semblent tout proches de nous et que la parole nous rappelle pour faire vibrer nos affections. Quant au service, quant à notre tâche. Quant à notre responsabilité à l'égard de l'Assemblée, n'oublions pas ce verset du chapitre 2 que nous avons lu, « J'endure tout pour l'amour des élus ». Il n'est pas souvent question d'amour dans cette deuxième épître à Timothée. Il y a la foi et l'amour qui sont dans le Christ Jésus au premier chapitre, et puis un peu plus loin aussi. Mais voilà un motif, c'est 1 Corinthiens 13. Que seraient les dons, que serait l'activité dans le corps s'il n'y avait ce moteur, s'il n'y avait cette énergie? L'amour des élus. L'apôtre, au fond d'une prison à Rome, endurait tout pour l'amour des élus. Alors, je reviens à cette question. Quand nous sentons nos responsabilités individuelles quant à Christ et qu'à la suite nous percevons notre responsabilité quant à l'Assemblée, est-ce que nous avons en nous-mêmes cet amour pour les croyants, cet amour pour les saints? Eh bien, nous allons aller plus vite, parce que nous passons tout de suite à une des deux ou trois ressources parmi les dix sur lesquelles je désirais que nous arrêtions. Quelle est cette ressource? Eh bien, ce sont les croyants. Ce sont les croyants. Voilà, il y a dix ressources que l'on peut présenter en trois chapitres de trois, trois fois trois, neuf, puis un dixième point. Trois chapitres de trois points. Le vase doit être préparé pour toute bonne œuvre dans une pensée de séparation. Ici, c'est l'Écriture qui forme l'homme de Dieu afin qu'il soit accompli pour toute bonne œuvre. Eh bien, l'homme de Dieu, en quelque sorte, on n'a pas besoin de l'exhorter à prier. Il est en communication permanente, en quelque sorte, en communion avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Première raison. Deuxième raison. L'état des pains dont cette deuxième épître est telle, la tâche, nous n'avons cité que sept caractères, il va quand même falloir encore citer sept fonctions de la tâche, c'est important. La tâche est telle que Timothée, en quelque sorte, est rejeté sur ses genoux. Il n'y a pas d'autre solution que d'abord prier. Même étant un homme de Dieu, il est rejeté sur ses genoux. Un exemple, une comparaison. Nous sommes dans une maison, et nous sommes à la fenêtre, nous regardons ce qui se passe, et puis nous ne savons pas que là-haut, au grenier, sous les combles, il y a le feu. Et quelqu'un qui passe par la fenêtre nous dit « Attention, il y a le feu là-haut ». Est-ce qu'il a besoin de nous dire « Téléphonez vite aux pompiers » ? Il n'a pas besoin de nous dire qu'il nous faut crier au secours. Eh bien, c'est ce qui se passe. Paul, en quelque sorte, n'a pas besoin de dire à Timothée qu'il faut crier au secours, qu'il faut prier. Il est automatiquement rejeté sur ses genoux. Donc, c'est une raison pour laquelle nous n'avons pas cette ressource de la prière qui est mentionnée. Il est fait mention de la prière. C'est très intéressant de lire dans le deuxième paragraphe de notre premier chapitre que Paul était reconnaissant envers Dieu. De quoi était-il reconnaissant ? De ce qu'il se souvenait si constamment de toi Timothée, d'un croyant là, bien précis, cher au cœur du Seigneur. Il se souvenait si constamment de Timothée, nuit et jour dans ses prières. Est-ce que nous savons assez être reconnaissants de ce que nous pouvons faire mention en assemblée et aussi individuellement de tel ou tel précieux service quant à l'ensemble, quant à l'assemblée, qui met encore en relief notre responsabilité quant au corps, quant à l'assemblée. C'est la seule mention qu'il soit fait de la prière avec ses deux côtés, la supplication d'une part, les actions de grâce de l'autre. Donc, dix ressources correspondant aux dix doigts de l'ouvrier. Parce que justement, il y a sept points de la tâche, n'y revenons pas, mais il y a sept titres. Et le caractère central de ces sept titres, c'est l'ouvrier dont il est question au chapitre 2. Le premier titre, c'est le soldat. Prends ta part des souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Deuxièmement, le lutteur, combattre dans la lice selon les règles. Troisièmement, le laboureur qui attend que le fruit soit produit. Quatrièmement, l'ouvrier, étudie-toi pour te présenter, approuvé à Dieu, ouvrier qui n'a pas à avoir honte. Ensuite, il y a le vase, nous en avons dit un mot rapide. Ensuite, il y a l'esclave du Seigneur. Et enfin, il y a l'évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Voilà devant nous, et devant Timothée, sept points qui chacun sont en rapport avec notre responsabilité quant à l'Assemblée. Alors, c'est intéressant de développer, mais nous voyons que l'heure tourne, qu'il y a déjà une heure que nous sommes là, et qu'il faudrait au moins deux ou trois réunions encore pour parler de la deuxième épître à Timothée avec profit. Mais soulignons quand même que le bon soldat de Jésus-Christ, un point, il n'est pas dit qu'il doit prendre sa part des souffrances dans le but de remporter une victoire. Quelquefois, on croit que être soldat de Jésus-Christ, c'est prendre les armes à la main et embrocher l'ennemi et avoir la victoire au bout de la baïonnette. Non, non. Prendre sa part comme un bon soldat de Jésus-Christ, c'est tout simplement désirer plaire à son capitaine, celui qui nous a enrôlés. C'est tout. C'est tout ce qui nous est demandé. Ah, ça nous remet à notre place. Ça nous remet à notre place. Il y a des centaines d'années, il y a des croyants mus par de très bonnes intentions qui ont cru que, justement, ce combat allait jusqu'au combat contre la chair et le sang. Mais ils se sont trompés, nous connaissons ces récits des siècles qui nous ont précédés. Mais quant à la réalité actuelle, il ne faut pas penser que nous avons des victoires à remporter. Oui, il est question de victoire dans 1 Jean 5. Cela nous entraînerait trop loin, c'est la victoire de notre foi. Mais ici, il s'agit tout simplement, tout humblement, d'être un bon soldat de ce capitaine et de lui plaire. Cela nous limite dans nos ambitions. Et cela est bon pour nous. Le deuxième, c'est de combattre selon les règles. Mais le Seigneur, il est 16 fois question du Seigneur dans cet épître. C'est celui qui a la puissance, c'est celui qui est fidèle, c'est celui qui délivre, c'est celui qui fortifie, mais c'est aussi celui qui a les droits. Eh bien, il désire que nous marchions et que nous combattions selon un certain ensemble de règles, que nous restions sur des rails, n'est-ce pas ? Et que nous ne dévions pas dans ce combat que nous menons dans la lice de ce qu'il nous a départi. Il y a le laboureur, c'est la patience, en attendant de jouir des fruits. Il y a l'ouvrier. L'ouvrier, c'est très intéressant de voir ce côté de l'ouvrier lié à Timothée, parce que nous pourrions appeler cette épître l'épître de l'apôtre à l'ouvrier. Et cet ouvrier a 10 doigts et il y a 10 ressources. Nous avons déjà un peu dit quelque chose là-dessus. Il y a 10 ressources, 3 chapitres de 3 points, plus une autre. Nous n'allons pas parler des 10 ressources, mais nous allons parler de ces 3 chapitres. Premier chapitre, d'une manière très proche, très concrète, ce que Timothée avait en lui. Oh, non pas en propre énergie, non, mais par grâce, ce qu'il avait en lui. La foi, le don de grâce, l'Esprit Saint qui habite en nous. Deuxième point de ce premier chapitre, les croyants. Nous allons y revenir. Troisième point, l'apôtre Paul. Il y a un magnifique exposé de son apostolat depuis l'origine, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est dans le Christ Jésus. On remonte très loin en arrière. La volonté de Dieu, c'est un sujet tellement vaste. Éphésiens 1, mais il y a tellement d'autres passages qui nous parlent de quelque chose, de la volonté de Dieu. Ça remonte. Au moment où se forme son propos, son dessein, il en est aussi question dans ce premier chapitre. Depuis l'origine, jusqu'à l'accomplissement de l'apostolat de Paul, cette couronne de justice qu'il va recevoir de la part du Seigneur juste juge en ce jour-là. Et entre-temps, il y a ses souffrances, ses persécutions, son but constant, sa persévérance, ce Dieu qu'il servait de ses ancêtres, etc. Voilà le premier chapitre. Timothée, les croyants, Paul. Deuxième chapitre, Dieu, sa volonté, sa puissance, son solide fondement, mais aussi à la fin du chapitre 2, ce qu'il peut opérer dans le secret des consciences et des cœurs, une fois que l'on a enseigné avec douceur l'opposant, attendant si Dieu peut être, ah, quelle parole importante dans la vie d'une assemblée. Il y a sa volonté, il y a sa puissance, il y a le solide fondement, mais il y a ce travail secret, dans le silence des cœurs et des consciences. Le travail a été fait de la part de l'ouvrier, il a enseigné, il a présenté, il a exposé justement la parole de la vérité, il a enseigné avec douceur, et il attend. Il se retire. Il a fait son travail, ce qui lui était départi, réalisant bien qu'il est un ouvrier inutile, mais le reste appartient à Dieu. Et Dieu va le faire. Premièrement, Dieu dans ce deuxième chapitre. Deuxièmement, Christ. Alors, Christ dans la deuxième épître à Timothée, cela nous emmènerait tellement loin. Il faudrait considérer en particulier ce chapitre 5, ce chapitre 3 du deuxième livre des Chroniques, où nous est détaillé le temple de Salomon, et il y a ces 2 colonnes qui sont là, Jachine et Boaz, quand même il faut le dire, parce que Jachine elle est placée à droite du temple, et Boaz est placé à gauche du temple. C'est-à-dire que quand nous entrons, la droite du monument est notre gauche, et la gauche du monument est notre droite. Et donc, à notre gauche, il y a Jachine, c'est la promesse, il établira, il affermira. Voilà pour mon affection et pour mon cœur. Voilà quelque chose que je considère, ces promesses qui sont contenues dans Christ. Cette colonne d'airain de 35 coudées de hauteur, 7 par 10, 7 par 5, 7 la divinité, 5 l'humanité. Jachine, à ma gauche, les promesses, c'est le futur. pour mon affection, pour mon cœur, pour m'attacher à la personne de Christ, à l'assemblée, ce temple qui est là devant moi, derrière ces colonnes. Et puis, il y a de l'autre côté Boaz, à ma droite. La droite, c'est l'élément de la force. Eh bien, en lui est la force, pour le présent. Pour chacun de mes pas, il me faut, pour rentrer dans cette maison, pour saisir quelque chose de cette maison, de ce temple, quel que soit l'état de ruine de la, dont il nous est parlé dans la deuxième épître à Timothée, considérons ces deux colonnes. L'une à ma gauche, l'autre à ma droite. Et quelque chose qui est intéressant, chers jeunes amis, vous prenez un papier et un crayon, et à l'exemple de ces deux colonnes, vous faites une colonne de gauche, une colonne de droite, et vous lisez la deuxième épître à Timothée, en pensant, ici à gauche, j'ai une promesse, j'ai Jacques. Et vous allez trouver au moins 18 ou 20 points différents qui sont en rapport avec une promesse, il établira, il affirmera. Et puis à ma droite, eh bien j'ai Boaz. J'ai la force, j'ai la puissance. Et vous allez trouver une quinzaine de points dans cette deuxième colonne. Et c'est intéressant de voir cela. Ce n'est pas du tout dans un désir de meubler l'esprit, de vous nourrir intellectuellement, parce que je souhaite de tout mon cœur qu'au contraire, ça vous enrichisse et que ça nourrisse votre âme et votre cœur. Nous en avons besoin, vous en avez besoin. Si on dit cela pour les jeunes, c'est bien entendu pour tous les âges qui sont ici représentés. Parce que même si nous avons 50 ans, 60 ans, 70... Nous savons bien que nous sommes tous des jeunes prolongés, d'une certaine manière. Alors, voilà les 6 ressources qui sont devant nous. C'est 2 chapitres, 3 fois, 2 fois 3 points. Et puis le troisième, la parole, la foi, la grâce. Nous avons dit qu'il y avait quand même une ou deux ressources sur lesquelles nous voulions insister. Et ce sont ces croyants. On l'a dit, il y a déjà un moment. Il faut quand même ne pas oublier ce qui est devant nous. Dans la deuxième épître à Timothée, il y a 25 noms. On met de côté les noms de Paul et de Timothée. Il en reste 23. Et sur ces 23, il y en a 6. Phygèle et Hermogène, Hyménée et Philette, on sait ce qu'il en est. Les deux premiers font partie de ceux qui se sont détournés de l'apôtre en Asie. Les deux suivants, leurs paroles rongent comme une gangrène. Après, il y a Démas, qui a aimé le présent siècle et a abandonné l'apôtre, où est-ce qu'il est allé? À Thessalonique, une assemblée si chère au cœur de Paul et de Timothée. Il suffit de lire Acte 16 pour voir la fondation de cette assemblée, de lire la première épître aux Thessaloniciens pour saisir les liens d'affection qui unissaient les Thessaloniciens entre eux, qui les unissaient à l'apôtre et l'apôtre aux Thessaloniciens. Eh bien, Timothée, c'est encore une cause de tristesse pour Timothée, il pouvait se demander quels dégâts allait faire des masses là-bas. Avec son amour du présent siècle, dans cette jeune assemblée de frères qui aimaient le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il allait donc faire là-bas? Donc il y a Démas, et puis il y a Alexandre, le méchant ouvrier en cuivre. Voilà 6. Alors il en reste 17. Ah, il en reste 17, dont Loïs et Eunice, et dont Onésiphore, dont Trophime, qui était malade, et dont Marc, qui était utile, et d'autres, certains sur lesquels il n'est rien dit. Mais voilà l'enseignement. Il est bon de savoir qu'il y a les 6. Et nous parlions des yeux clairvoyants des jeunes tout à l'heure. Ils savent bien que dans l'assemblée, il y a les 6. Que dans le rassemblement des saints, il y a les 6. Ils les connaissent. Et nous les connaissons. Et il ne faut pas ignorer ce qui est néfaste. Il ne faut pas ignorer le mal. Il nous faut, selon Jacques 4, sentir nos misères, mener deuil et pleurer. Et c'est l'occasion de dire une fois de plus, est-ce que nous savons encore assez pleurer? C'est bon d'être ému. Quand on fait des visites, quand on voit l'un, qu'on voit l'autre, on se rend compte qu'il y a des gens qui pleurent jamais, et puis il y en a dont le cœur est serré, et ils sont émus. Et il y a certainement un rafraîchissement pour l'un et pour l'autre à voir des larmes couler et à sentir que l'on pleure. Des yeux embués sont toujours un signe de cœur qui aime le Seigneur, le signe d'affection vivante. Alors sentez vos misères, menez deuil, pleurez. Oui, nous sommes solidaires et co-responsables de l'état de ces 6. Mais, est-ce que nous allons nous arrêter sur les 6? Est-ce que nous allons faire une fixation sur ces 6? Est-ce que nous allons être obsédés sur ces 6? Bien, chères sœurs et frères en Christ, sur qui jetons-nous nos yeux? Sur les 6 ou sur les 17? quand même il y a les 17. Et sur chacun, sur chaque visage de ces 17, nous allons voir un reflet de quelque caractère de Christ, quand même, nous allons bien le voir. Et est-ce que cela ne serait pas propre à nous encourager dans la tâche qui est la nôtre, devant le tableau si sombre brossé par l'apôtre Paul? Les 17 ou les 6, pensons à cela. C'est bien, nous sommes facilement censeurs, légalistes, aimons bien, montrer du doigt. Mais il y a les 17, il y a Onésiphore. Oui, il y a Loïs, il y a Eunice, n'oublions pas. Quand on lit Romains 16, la place des sœurs dans Romains 16, ça commence par Phébé. Il y a 5 ou 6 lignes sur Phébé, une servante fidèle. Et puis il y a Persis, il y a Marie, elles ont travaillé. Eh bien là, il y avait Loïs, il y avait Eunice, elles étaient à la source de Timothée. Elles avaient appris l'Ancien Testament, ces saintes lettres, qui sont là, qui peuvent rendre sage à salut. Alors, une pensée donc seulement sur cette ressource-là, les croyants. L'apôtre Paul, nous avons dit quelque chose, Dieu c'est tellement vaste, Christ aussi, nous avons évoqué ces deux colonnes, il y a la parole, la grâce, la foi. Il y a la 10e, et ça sera la clôture, c'est tellement beau la 10e. Ce sont les perspectives éternelles et glorieuses. Il est plusieurs fois parlé de ce jour-là. Alors nous disions tout à l'heure, les deux colonnes, nous avons oublié de parler du portique, bien sûr, 120 coups d'eau. Derrière, il y a la maison, telle qu'elle est devenue. Mais au-delà de cette maison, au travers de ces deux colonnes, au travers de ce portique, qu'est-ce que je vois? Ah, je vois le salut avec la gloire éternelle, comme nous l'avons lu au chapitre 2. Je vois le royaume céleste, pour lequel le Seigneur nous conservera, si nous aimons son apparition. Est-ce que nous aimons son apparition? C'est-à-dire le moment où il va venir. Et cela évoque le tribunal de Christ, au moment où tout sera jugé et mis à nu, des conseils cachés des cœurs. Est-ce que nous aimons son apparition? Est-ce que nous aimons son apparition et son règne? Voilà ce jour-là dont il est question dès le premier chapitre. Quel encouragement, quelle stimulation, quelle sanctification! Prenons à cœur toujours davantage les intérêts de Christ. Prenons à cœur notre responsabilité personnelle quant à Christ pour bâtir l'autel. Et si nous saisissons cela, immédiatement nous saisirons notre responsabilité quant à l'Assemblée. Vous savez, on peut dire que, on entend souvent dire d'un croyant, vous savez, oui, il y a des choses qui vont pas, mais il aime le Seigneur. Ah oui, il aime le Seigneur. Je parle d'un croyant qui a été éclairé, qui a été enseigné, qui a une responsabilité. Il aime le Seigneur, mais et quant à l'Assemblée, il fait un petit peu ce qu'il veut. Sa responsabilité, il n'a pas l'air de bien l'assumer. Alors, se peut-il que quelqu'un aime le Seigneur et qu'en même temps, il n'aime pas l'Assemblée? Non. Plus à Dieu que chacun de nous ici, et même ceux qui ne sont pas en communion à la table du Seigneur, qui n'ont pas donc effectivement et pratiquement fait face à la responsabilité quant au corps. Plus à Dieu que chacun de nous, à l'égard de cette assemblée locale et celle de Valence, parlons pratiquement, parlons ce qui nous touche ce soir, à laquelle nous sommes rattachés, eh bien, nous y soyons toujours de plus en plus attachés, attachés de tout notre cœur. Si nous aimons le Seigneur, nous aimons l'assemblée. Nous aimerons les élus et nous endurerons beaucoup de choses pour l'amour des élus, que ce soit notre part à chacun. Il y a des ressources invariables. Nous n'avons fait que jalonner le sujet. Chacun de nous pourra le reprendre. Considérez Jacquine, considérez Boaz, considérez la personne de Christ, considérez Dieu dans sa puissance, dans sa grâce, le Saint-Esprit. Chacun pourra voir cela. Et considérer que quant à la vie de l'Assemblée et quant à sa responsabilité quant à la vie de l'Assemblée, il ne s'agit pas d'user de stratagèmes, il ne s'agit pas d'user de moyens humains, mais il s'agit de faire confiance à Dieu et à ce qu'il nous propose dans sa parole. Alors là, il y a de la consolation, alors là, il y a de l'enrichissement pour chacun, et l'on va de force en force.